16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. Deux heures où vous entendez ce qu'on dit à l'antenne, mais aussi ce qu'on dit hors antenne et même parfois ce que les uns disent des autres hors antenne. C'est comme ça que j'ai découvert que quand j'étais pas là, Stéphane Bern ne m'appelait pas Mathieu, mais...
La Grande Asperge.
Bonjour Stéphane, la Grande Asperge vous salue.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, nous sommes enregistrés, mais on n'est pas les seuls. C'est même le point commun de nos personnages du jour. Ils ont été enregistrés à leur insu. À commencer par le célèbre chef d'orchestre italien Arturo Toscanini. S'il a toujours refusé de se confier en interview, il l'a fait auprès de son propre fils sans se douter qu'il enregistrait tout. Ça a duré pendant plus de 3 ans jusqu'à sa mort en 1957. Puis elle aussi, ses discussions entre amis, pas toujours proches, ont été enregistrées sans qu'elle le sache. Liliane Bettencourt était écoutée par celui qui devait pourtant se montrer le plus discret, son majordome. Quelle affaire. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un personnage plus proche de nous, mais qu'on écoute aussi.
Oui Stéphane, une de vos idoles, vous me disiez encore en antenne tout à l'heure, ah quand même, quand Trump était à la Maison Blanche, il n'y avait pas tout ce bordel en Afghanistan, il savait tenir la baraque, lui.
J'ai dit ça, moi.
C'est votre opinion Stéphane, je n'y adhère pas,
non,
mais je la respecte.
Non,
oui,
non.
Donald Trump aussi a été enregistré à son insu. Déjà que lorsqu'il voit le micro, il a tendance à dire n'importe quoi, alors imaginez quand il ne le voit pas.
Et avec nous, comme chaque jour, eux aussi savent qu'ils sont enregistrés. C'est Clémentine Portier-Caltenbach qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. Bonjour
oui,
Clémentine.
Bonjour à tous. Oui, pour une histoire un petit peu tristounette, mais néanmoins édifiante aujourd'hui, l'affaire Mortara. Parce que voyez-vous, être enregistré là, à son insu, bon d'accord, c'est un peu désagréable. Mais que diriez-vous de découvrir que votre enfant a été baptisé en cachette par votre employé de maison dans une religion qui n'est pas la nôtre.
Ça, c'est quand même choquant.
Ça, c'est quand même... Okay. Alors, c'est tout le drame de la fameuse affaire Mortara. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ça entraîna un scandale international dans les années 1850. Baptisé à l'insu de son plein gré. Voilà ma thématique.
Avec nous également David Castello-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention, par exemple.
C'est souvent des objets du quotidien, des fois pas. Et là, c'est les missiles qui n'explosent pas.
Je sais chacun que c'est son quotidien.
Chacun son quotidien, c'est le quotidien de certaines personnes. C'est un petit peu une innovation. Donc, vous voyez, c'est les origines d'une innovation assez
récente.
C'est
pas des missiles foireux, c'est des missiles qui sont faits pour ne pas exploser.
Qui sont faits pour ne pas exploser. Je vous dirai tout. C'est fascinant. C'est une façon vraiment très délicate de tuer les gens.
C'est très, très, très intrigant. Olivier Pouls est avec nous.
Oui, à l'origine d'une recette ou d'un plat ou d'un mets.
Et alors, intrigant aussi, on va parler des tomates anciennes. Vous savez, depuis quelques années,
oui,
on voit que ça. Qui sont de toutes les couleurs. Mais est-ce qu'elles sont vraiment anciennes? Ah ben non, mais on va se poser la question, c'est pas sûr.
Bah, elles sont même pas nouvelles. C'est quand même pas nouvelles.
Je l'ai dit, elles viennent de pousser. Hein.
Non, mais leur race ne peut pas être, si on les a appelées tomates anciennes, j'imagine qu'il ne peut pas y avoir de rebondissement.
Eh ben vous allez voir.
Non que... Oh mon Dieu, mon Dieu, des rebondissements en perspective.
Bah, enfin, on parle pas de race.
Non,
de
variété.
Non, de variété, bien sûr. Mais on parle de variété de chiens ou de race de chiens? Je me mélange tout le temps.
De race de chiens
et de variété de tomates. Très bien, c'est noté pour la prochaine fois. Enfin, nous jouerons tous ensemble pour déterminer lequel de l'équipe est le moins nul en histoire. 2 quiz vous attendent, Bern to be alive juste avant 17h, puis la lutte finale juste avant 18h, les seuls quiz d'histoire où la réponse peut être...
Robin est gay.
Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage de l'histoire à avoir été enregistré à son insu. Il est célèbre pour avoir mené son monde à la baguette, mais il a toujours refusé de se confier sur son métier. Toujours, jusqu'à ce jour, il a commencé à tout raconter à son fils, sans se douter une seconde qu'il était enregistré. Et en plus, pendant plusieurs années, Stéphane Bern allume son micro et nous raconte le chef d'orchestre, Arturo Toscanini.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Un soir d'hiver 1954, à Riverdale, dans le quartier du Bronx, à New York, à travers la fenêtre d'une maison cossue, on peut apercevoir les ombres d'hommes et de femmes bavardant au coin du feu. Une scène banale qui aurait dû disparaître des mémoires une fois la dernière bûche de la cheminée réduite en cendres. Oui, mais ce soir de la Saint-Sylvestre, comme pendant les 3 années suivantes, le chef d'orchestre italien Arturo Toscanini est enregistré par son fils Walter. À ses côtés se trouvent aussi sa fille Wally, des amis proches et une jeune femme que certains décrivent comme la maîtresse du chef. Sans se douter le moins du monde que toutes ces confessions font l'objet d'un enregistrement audio, Arturo Toscanini se livre à plus de 87 ans, sans filtre, sur sa longue et fascinante vie. Pour réussir sa mission, le fils Toscanini va mettre en place un stratagème digne des plus grands espions. Il parvient à dissimuler dans la maison de Riverdale, où le chef s'est retiré après son dernier concert en 1954, un magnétophone qui y restera donc pendant 3 longues années. L'exercice est compliqué. Il faut dire qu'Arturo Toscanini a toujours refusé de répondre à des interviews. En 1938, il se confie à sa maîtresse Ada Menardi au sujet de la publication des lettres de Giuseppe Verdi, le compositeur italien. « On ne laisse jamais ces pauvres grands hommes tranquilles jusque dans leur tombe. » Pourtant, de ces années à faire parler son père, découlent plus de 150 heures d'enregistrements inédites. Ces enregistrements ont été révélés au début des années 2000, soit plus de 50 ans après la mort du chef d'orchestre. On y entend Toscanini s'exprimer en plusieurs langues, évoquer des sujets musicaux comme d'autres beaucoup plus personnels. Imaginez cet homme s'approchant des 90 printemps entouré de sa famille, qui se remémore avec nostalgie son premier amour à l'âge de 4 ans. Imaginez-le pensant se livrer uniquement à des proches, révéler sans pudeur ses nombreux écarts de conduite. Car si Arturo Toscanini était réputé pour son implacable discipline musicale, en privé, il n'hésitait pas à transgresser la partition conjugale et accumulait les fausses notes. Dans ses enregistrements, il l'avoue, « J'étais un bon mari, mais infidèle. » Il est, quoi qu'il en soit, resté marié 53 ans avec sa femme Carla. Lors de ses après-midi et soirées passées à bavarder avec son fils, Arturo Toscanini revient longuement sur sa carrière de chef d'orchestre. Il évoque avec beaucoup d'émotion son adoration pour Beethoven ou encore comment le talent de Wagner l'a dissuadé à tout jamais de composer de la musique. « Lorsque j'ai entendu la musique de Wagner, j'ai su de suite que tout ce que je composerais ne lui arriverait pas à la cheville. En musique, il n'y a pas de place pour la médiocrité. J'ai abandonné l'idée d'être compositeur. » Mais ne croyez pas cependant qu'Arturo Toscanini s'épanche mièvrement à longueur de bande-son. Le chef d'orchestre, au tempérament bien trempé, dégaine les mots comme il assène les notes. Il n'hésite pas à révéler sa relation houleuse avec le compositeur Giacomo Puccini. Pendant des années, on ne s'est pas adressé la parole. Un jour, à Noël, je reçois venant de chez lui une panettone. Aussitôt après, un télégramme de Puccini. Panettone est envoyé par erreur. Stop, Puccini. Je lui ai répondu aussitôt. Panettone est mangé par erreur. Stop, Toscanini.
Ça déconne sec hein, chez Toscanini.
Toscanini est un chef d'orchestre qui n'y va pas avec le dos de la baguette. Depuis tout petit, c'est lui qui mène la danse, ou tout du moins la musique. Né à Parme le 25 mars 1867, il aura connu Verdi, Puccini, Mussolini, les premières et secondes guerres mondiales, l'apparition de la voiture, plus tard de la télévision. Mais lui, ce qui l'anime, c'est le violoncelle. À 19 ans, en tournée en Amérique du Sud, Toscanini remplace le chef initialement prévu. Pourtant, c'est à Turin qu'on lui offre officiellement sa première tribune. Verdi, Wagner... Son talent de chef d'orchestre éclate au grand jour. Au cours de ses longues heures d'enregistrement, l'octogénaire se remémore son ascension de la Scala au Metropolitan de New York et il accepte sans détour sa réputation de chef exigeant, voire tyrannique, comme on peut l'entendre sur cette archive, enregistrée, elle, en toute légalité. S'il est parfois violent, Toscanini est surtout un orfèvre des notes. Un mathématicien des croches, un horloger du rythme. Il dirige ses musiciens d'une main de maître et ne tolère aucune erreur, aucune approximation. Les musiques doivent être jouées à la perfection. Travailleur acharné, cet homme frêle à la moustache bien taillée connaît les partitions par cœur. Tant et si bien qu'il n'a pas besoin de les avoir devant lui, elles sont imprimées dans son cerveau. Et gare à ceux qui ne se hisseraient pas à son niveau d'exigence. À une cantatrice qui se risque à lui donner des ordres car elle se prend pour une star, il aurait répondu « Les seules étoiles sont dans le ciel ». À un musicien qui visiblement manque de précision, il vocifère « Vous, c'est vous que je regarde, honte à vous !» Utilisez votre archer, vergogne! Ça veut dire honte. Quant à la diva Maria Callas, qu'il affectionne pourtant, il dit d'elle qu'elle a une bien méchante voix. Le chef d'orchestre s'est donc lui aussi donné de la voix, quitte à s'opposer à l'un des dictateurs les plus puissants et dangereux que l'Italie ait connu. Car Toscanini a vécu en direct la montée du dictateur Benito Mussolini. Pendant ses enregistrements, il raconte son rapport avec le fascisme italien. Il reconnaît s'être rapproché du mouvement après la Première Guerre mondiale. Mais avec les années, le chef d'orchestre s'éloigne de plus en plus des idées de Mussolini jusqu'à lui vouer une haine officielle. Il s'en confie à son fils lors de leurs nombreuses discussions. « Quel monstre que cet homme ! Tant que j'étais à la Scala, j'ai refusé qu'on accroche les portraits officiels de Mussolini et du roi. Jamais je n'ai accepté de diriger dans un pays privé de liberté. » En 1931, Toscanini est giflé par des chemises noires, les membres de la milice fasciste, parce qu'il refuse de jouer l'hymne officiel. Placé sous surveillance, on lui confisque son passeport, mais il parvient à quitter l'Italie. Il n'y reviendra qu'en 1946 pour la réouverture de la Scala. Parmi les 150 heures de bande, le chef d'orchestre évoque également sa cote de popularité. Sa réputation de génie le conduit à diriger des orchestres sur les plus grandes et prestigieuses scènes du monde. La Scala de Milan, le Metropolitan Opera de New York. Il est aussi le premier directeur musical du NBC Symphony Orchestra. Lorsqu'il intègre le Metropolitan, par exemple, l'opéra lui propose un cachet net de 25 000 lire par mois, soit 1 200 000 euros annuels. Du jamais vu pour un chef d'orchestre. Les spectateurs se déplacent autant pour lui que pour les grandes voix qui l'accompagnent. Pourtant, Toscanini a toujours souhaité rester discret, tant sur sa vie privée que professionnelle. Alors forcément, quand les enregistrements sont révélés, tout le monde s'interroge. Pourquoi le petit-fils d'Arturo Toscanini, le fils de Walter, a-t-il transmis ces documents ? Un docufilm a même vu le jour, mais des personnages centraux dans la vie du chef d'orchestre ont été oubliés, à commencer par sa fille Wanda et son mari, le pianiste Vladimir Horowitz. Sans explication. Arturo Toscanini, lui, meurt à 89 ans à New York. Son corps repose depuis dans un cimetière de Milan avec, pour épitaphe, « Ici, l'opéra se termine ». Car à ce stade, le maestro est mort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et Stéphane, pour continuer à parler d'Arturo Toscanini, nous sommes avec Christian Merlin. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Christian Merlin, vous êtes critique musical, musicologue et auteur de l'ouvrage « Les grands chefs d'orchestre du XXe siècle » paru aux éditions Buchet-Chastel, dans lequel Arturo Toscanini a évidemment toute sa place. Pour vous, c'est quoi un grand chef ? Et est-ce que Toscanini avait... Qu'est-ce qu'il avait de plus grand que les autres ?
D'abord, il faut peut-être rappeler une évidence, pardon, mais c'est que le chef d'orchestre, c'est le seul musicien qui ne produise pas lui-même le son, comme le fait le pianiste ou le violoniste, il le fait faire par d'autres. Et pour ça, il faut des qualités extrêmement complémentaires, il faut une technique pour coordonner 100 musiciens, les faire jouer ensemble avec une vision d'ensemble. Il faut une oreille pour corriger les erreurs que commettent les musiciens. Il faut un charisme, un rayonnement pour transmettre cette vision musicale, parce que le chef n'est pas seulement un batteur de mesure qui coordonne les gens, c'est un interprète à proprement parler. Et Arturo Toscanini non seulement avait tout ça, mais en plus, alors, il était capable de galvaniser les orchestres, de les faire jouer encore mieux qu'il pensait en être capable, et tout ça dans le respect absolu de la partition. Et ça, c'était inédit à l'époque, ce souci de précision qu'il avait, parce que à l'époque, parfois, les orchestres jouaient de manière un petit peu plus approximative ou laxiste, et lui était impitoyable sur l'exactitude.
On l'a entendu dans le récit de Stéphane, Arturo Toscanini est dépeint comme un personnage assez acariâtre, hein, extrêmement exigeant, ça vous l'avez rappelé, capable de pousser d'immenses colères contre ses musiciens. Vous dites dans votre livre, un tyran à la Toscanini ne serait tout simplement plus possible aujourd'hui. À l'époque, c'était possible, il était en fait encore plus respecté en gueulant comme ça ?
Mais c'est-à-dire, c'est une toute autre époque, comme vous l'avez dit vous-même, les mentalités évoluent, on était dans un rapport beaucoup plus vertical au pouvoir aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une quête d'horizontalité. Le chef d'orchestre, dans ces années-là, était une sorte d'incarnation du pouvoir. C'était un despote, il incarnait l'autorité. Il y a une phrase que Toscanini prononçait souvent face à l'orchestre, dans son sabir d'italien et d'anglais, quand il était à New York. « Non voglio accompagnare, I am the conductor. » Je ne suis pas là pour accompagner, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Mais Je suis pas sûr que ça a été pour ça qu'il était respecté. C'était surtout pour sa connaissance absolue de la partition, comme l'a très bien dit Stéphane dans son récit, et aussi par le fait que les musiciens sentaient bien que cette exigence qu'il avait n'était pas à son service à lui, au service de sa propre gloriole, si vous voulez, mais uniquement au service de la musique. Et puis il y a peut-être une autre chose que les musiciens savaient très bien, c'est que ces colères à Toscanini, vous en avez passé un extrait complètement effrayant, mais elles retombaient vite. C'était un latin en fait. Mmh. Alors qu'il y avait à la même époque des chefs d'orchestre comme Fritz Reiner ou Georges Sell qui avaient des colères froides, rancunières, et ça fait beaucoup plus peur.
Mmh, oui. Dans votre livre, vous revenez sur le parcours de Toscanini. Il y a cette incroyable histoire au Brésil que j'aimerais que vous racontiez. Il est alors simple violoncelliste dans une troupe et se retrouve à devenir chef d'orchestre.
C'est ça. Il avait été engagé par un impresario qui avait organisé cette tournée d'opéra au Brésil avec une troupe de fortune, un peu, pour jouer tous les jours dans une ville différente, un opéra dans des conditions absolument rocambolesques. Et il se trouve qu'il y avait un chef d'orchestre brésilien qui s'est vite révélé ne pas faire vraiment l'affaire. Il n'était pas au niveau, tout simplement. Et les musiciens, chanteurs, choristes étaient bien embêtés. Et il se trouve que, justement, des musiciens et des membres du chœur avaient repéré ce jeune violoncelliste-là de 19 ans qui souvent n'hésitait pas à accompagner les chanteurs au piano pour les faire répéter, et on se rendait compte qu'il n'avait pas de partition devant lui, il connaissait tous les opéras au programme par cœur, et pas seulement sa partie de violoncelle, hein, toute la partition. Et donc il y a une choriste qui lui a dit « Mais il faut que ce soit toi qui dirige, ce sera mieux qu'avec l'autre incapable qu'on nous a fourgué. » Et de fait, Toscanini n'avait jamais dirigé un orchestre de sa vie. Il a tenté le coup et ça a été une révélation, ça a été un triomphe. Et les musiciens sont venus le voir après en disant « Mais tu es fait pour ça, tu es un chef né. » Et ils avaient raison.
Alors, on l'a dit, Toscanini a été enregistré à son insu par son fils dans l'intimité du domicile familial pendant 3 ans. Pourquoi en fait son fils a eu cette idée ?
Ça c'est difficile à dire, je ne suis pas à sa place, mais ce que je crois comprendre, c'est que Toscanini, d'ailleurs Stéphane l'a rappelé dans son récit, faisait partie de ces artistes qui n'analysent pas leur art, ils le font tout simplement, ils n'aiment pas en parler, ils ne donnaient pas d'interview d'ailleurs. Or, on a envie quand même, quand on a un tel génie, de connaître ses conceptions musicales et son rapport à son métier. Et c'est là que malheureusement, il faut parfois recourir à des subterfuges. Et alors si en plus, en prime, on en apprend sur sa vie privée et sur sa personnalité, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je suis pas sûr que ça lui aurait beaucoup plu parce qu'il était au fond très pudique. Ben, hein, oui. Ce grand extraverti n'aimait pas trop parler de lui. Il y a peut-être une autre raison, c'est que il y avait beaucoup de clichés, de stéréotypes sur Toscanini, justement à propos de ses colères, de son caractère irascible, et peut-être que c'était un moyen de montrer d'autres facettes de sa personnalité.
Et les enregistrements, en fait, ont été révélés plus de 50 ans après sa mort. À votre avis, quelle aurait été sa réaction s'il l'avait appris, s'il avait su?
Ah ben moi, je pense qu'il aurait piqué une autre de ses légendaire colère, comme vous en avez passé un exemple. Quand il piquait ses colères à l'orchestre, il lui arrivait de casser sa baguette en deux. Là, si ça avait été à la maison, il y aurait eu du verre brisé, certainement.
Il y a aussi une autre histoire d'enregistrement, mais cette fois-ci, il était au courant. Ce sont les enregistrements avec le NBC Symphony Orchestra. Le groupe de radio-télévision américain lui a confectionné un orchestre sur mesure pour enregistrer tout son répertoire. C'était du jamais vu ?
Ah oui, complètement. Ce qui est inédit, c'est que un office privé, un réseau de radio et de télévision fonde un orchestre sur mesure pour un chef d'orchestre. Ça veut dire qu'on a mené une campagne de recrutement pour engager des musiciens venus de tous les États-Unis. Et tout ça, c'était au service de Toscanini en lui disant « Vous allez pouvoir maintenant enregistrer, léguer à la postérité tout votre répertoire, vous avez carte blanche, vous dirigez, vous enregistrez ce que vous voulez. » Alors, ça n'était pas vraiment au départ pour le disque, même si l'idée est venue du président de RCA, label discographique, David Sarnoff, en 1937, mais c'était une conséquences directes, j'allais dire. Les concerts étaient radiodiffusés, parfois télédiffusés, ça c'était très nouveau, et ensuite reportés sur disque. Et je dirais que ça, c'était la grande nouveauté qui fait de lui peut-être un des premiers chefs d'orchestre moderne, alors qu'il était déjà âgé, et plutôt un homme issu du 19e siècle, c'est de mettre les moyens modernes de communication, les médias modernes, au service de la diffusion de la musique.
J'ai parlé un petit peu de politique et des rapports qu'Arturo Toscanini avait avec le dictateur italien Mussolini. Il s'est élevé très tôt contre le fascisme italien à partir de la fin des années 30. Est-ce qu'il y a eu d'autres gestes forts contre cette montée de l'autoritarisme et ce qu'on appelle la montée des périls en Europe?
Effectivement, après sa rupture avec Mussolini, il n'a jamais cessé de prendre parti contre la montée des totalitarismes. Il était très apprécié, très aimé en Allemagne, et on l'avait invité, ce qui était inouï, un chef italien, au festival de Bayreuth, fondé par Wagner, pour jouer la musique de Wagner. Eh bien, en 1933, à l'arrivée de Hitler au pouvoir, Toscanini démissionne de Bayreuth et dit qu'il ne dirigera plus en Allemagne. Il y a une date extraordinaire, c'est décembre 1936, où Toscanini dirige le premier concert de ce qui s'appelle encore Orchestre Symphonique de Palestine, et ça deviendra l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Et ça aussi, c'est un geste très fort, parce que c'est un orchestre qui est composé essentiellement de musiciens juifs européens qui ont quitté l'Europe précisément pour échapper à tous ces périls. Il va aussi fonder un orchestre à Lucerne, au Festival de Lucerne, avec le chef suisse Ernest Ansermet, également pour accueillir les musiciens mis en difficulté par la montée du totalitarisme.
Écoutez, mais c'est passionnant. Merci Christian Merlin pour toutes ces histoires. Pour la petite anecdote, je rappelle que vous êtes aussi le petit-fils de l'un des fondateurs d'Europe 1, Louis Merlin. Ah, oui. Et je rappelle votre livre, Les grands chefs d'orchestre du XXe siècle, paru aux éditions Buchet-Chastel, et votre dernier ouvrage, Pierre Boulez, consacré aux compositeurs et chefs d'orchestre français, paru chez Fayard. Et j'en profite pour dire que vous animez aussi l'émission Au cœur de l'orchestre sur France Musique. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, en secret, c'est comme ça que le jeune garçon dont vous nous avez parlé a été baptisé, à l'insu de son plein gré et de ses parents. Il s'appelait Edgardo Mortar.
Absolument. Vous avez vu la petite tête d'enfant de cœur,
oui,
que nous
vrai.
Fait déjà Mathieu,
on
là.
On lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Exactement. Alors qu'il connaissait même pas le saint patron de la Suisse l'autre jour. Bon,
c'est
alors.
Vrai, mais donc, j'ai encore oublié.
Il a oublié Nicolas de Flux.
Nicolas de Flux, pourtant, c'est facile. On mémorise.
Bon, et en tout cas, je vais vous dire mon histoire.
Sainte-Galen.
Bah oui, voilà, ça aurait été plus logique.
Mon histoire, elle a été assez oubliée aujourd'hui, et pourtant, à l'époque, ça a entraîné un scandale international. Tout commence le 23 juin 1858 à Bologne, en Italie. Ce jour-là, à la nuit tombée, des gardes pontificaux, comme vous les aimez, Saint-Nicolas de Flux est aussi le saint patron des gardes pontificaux, d'ailleurs. Hein, voyez toute l'histoire. Hein. Il y a des raccourcis étranges.
Oui, mais ne vous perdez
alors,
pas en chemin.
Alors, je ne me perds pas en route. Alors, il arrive avec quelques représentants de la police municipale bolognaise et il débarque chez Salomon et Marina Mortara, une famille de confession juive, et il s'empare manu militari de leur fils de 7 ans, Edgardo. Hein, Edgardo, donc, petit garçon, né le 27 août 1851. On imagine la scène. Stupeur, indignation, cris, larmes, non seulement des parents, mais de leurs 7 autres enfants, car c'est une famille nombreuse, les Mortara. Les envoyés du pape viennent tout bonnement, sous leur nez, de kidnapper leur fils. C'est stupéfiant. Mais ils en ont le droit, parce que Bologne est la seconde ville des États pontificaux après Rome. Donc, ici, le pape a tout pouvoir. Et il peut tout à fait envoyer des gardes pontificaux, envoyer un gamin. Mais enfin, tout de même, c'est quand même extraordinaire, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 5 ans auparavant, Edgardo était gravement malade, on le croyait perdu, et la servante des Mortara, Anna Morisi, une bonne petite catholique de 14 ans, croyant qu'il allait mourir et qu'il n'irait pas au paradis puisqu'il n'était pas chrétien, l'a baptisé en cachette. En fait, baptisé, elle l'aurait plutôt ondoyé, vous savez, c'est ça le mot exact, l'ondoiement. Elle l'a aspergé d'eau en disant une prière. Alors, Bien sûr, l'Église catholique interdit le baptême d'enfants non catholiques, mais si l'enfant est en danger de mort, et dans ce cas seulement, tout catholique, simple laïque, peut le pratiquer en prononçant la formule sacramentelle. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit. Y compris...
C'est blasphématoire. Hein.
Y compris... Et on peut faire ça en étant laïque, y compris contre la volonté des parents. Et par la suite, si l'enfant survit, bien sûr, faudra le baptiser dans les formes. Le problème, c'est que la petite Anna Morisi, après avoir caché son geste pendant des années, a fini par parler, et elle a trop parlé, et son récit est remonté jusqu'aux oreilles de l'inquisiteur de Bologne, lequel en a référé au pape, et suivant les directives de Pie IX, il décrète que le petit Edgardo est chrétien et que dès lors, il ne peut rester une minute de plus dans une famille juive. Le lendemain même de son rapt, Edgardo est renvoyé à Rome pour y être élevé à la maison des catéchumènes. Une institution réservée aux nouveaux convertis. Au passage, on change son prénom, donc le petit Edgardo, on lui donne le nom du pape, c'est-à-dire Pio. Pio, c'est Pi en français, voilà. Alors, on imagine le désespoir des parents qui remuent ciel et terre pour récupérer leur fils. C'est insensé, cette histoire. Et à Paris, c'est notamment cette affaire qui, associée à plusieurs actes antisémites, va susciter la création de l'Alliance israélite universelle créée en 1860. Tout le monde s'en mêle en Europe et dans le monde entier. Napoléon III, Guillaume II d'Allemagne, il est saisi par des rabbins allemands. Mais lui, il dit, écoutez, je pense que mon influence sur le pape venant d'un empereur protestant, ça risque de pas être très efficace. François-Joseph d'Autriche s'en mêle aussi. Cavour et les nationalistes italiens qui dénoncent ce pouvoir temporel absolument scandaleux du pape. Comment un pape peut se permettre d'aller retirer, kidnapper, rapter un enfant? Des personnalités protestantes, anglaises, américaines, la presse du monde entier, jusqu'aux chanoines de Notre-Dame de Paris et de très nombreux catholiques qui protestent contre cette décision contre nature. Ceux qui soutenaient le pape dans cette histoire ont fait valoir que les Mortara n'avaient qu'à pas embaucher une servante chrétienne. Parce que figurez-vous, dans les états pontificaux, un juif n'avait pas le droit de recruter une servante chrétienne. Eh ben oui, vous la prenez, je l'ai appris aussi. Mais malgré toutes les sollicitations venues du monde entier, Pie IX ne cède pas. À ses yeux, l'Église a le devoir de prendre cet enfant en charge pour sauver son âme. S'il restait dans une famille juive alors qu'il a été baptisé, il renierait son baptême, il serait ce qu'on appelle apostat et il perdrait toute chance de salut éternel. Et Pio va donc être instruit dans le catholicisme. À 16 ans, il devient prêtre. Et oui, il devient prêtre. Non, mais c'est quand même extraordinaire, cette histoire. Il sera missionnaire, il prêchera un peu partout en Europe et même aux États-Unis. Et le peut-être le plus tragique dans cette histoire, quand en 1878, sa mère peut enfin le revoir à Paris, hein, elle découvre le père Pio, un parfait étranger, qui va aller jusqu'à tenter de la convertir. Bon. Pour mère et fils, ite, missa est, la messe est dite, mais dans cette affaire, on se demande bien où était passée la charité chrétienne. Et aussi ahurissant que ça puisse paraître, il y a eu de nombreuses affaires de baptême forcé en Italie, évidemment, en priorité, mais en France, il y a eu la fameuse affaire Finali à la fin de la dernière guerre que je vous raconterai.
Ça sera l'objet d'une autre.
Une autre fois.
Une autre émission. Mais, puisque vous êtes la spécialiste de ces questions. Merci beaucoup.
Tout à fait, je songe à devenir experte auprès du Vatican.
Très bien, ils vous attendent. Merci, sœur Clémentine.
Et sœur Clémentine, reste avec nous, Stéphane. Je vais vous jeter un peu d'eau bénite en l'air et nous allons procéder au quiz. Que le meilleur gagne.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz et j'avais prévenu Stéphane l'année dernière, ne jamais chercher à battre Clémentine Portier-Kaltenbach sur le terrain de l'histoire, la dernière qui lui a cherché des noises.
Elle est morte vieille fille dans un couvent.
Allez Stéphane, n'ayez pas peur, jouons à Burn to be Alive. Première question, elle est pour vous. Vous ne connaissez que lui, Stéphane, Joseph de Boniface de la Mole. Grand séducteur, il a été l'amant éphémère de la reine Margot au XVIe siècle. Il finira, comme vous le savez, guillotiné, place de Grève, soupçonné d'avoir participé au complot de Vincennes. Ayant eu beaucoup d'aventures galantes, il avait toujours sur lui
il
une
est
gourde.
Guillotiné, hein, il n'est pas guillotiné, excusez-moi cette incise. Décapité. Il est décapité, mais c'est pas
effectivement
guillotiné.
Certainement pas.
La guillotine n'existe pas encore sous la Renaissance. Un quart de point pour moi.
Ayant beaucoup d'aventures galantes, il avait toujours sur lui une gourde d'eau bénite qu'il buvait pour expier ses péchés. Vrai ou faux?
Ça pourrait être... C'est dans l'esprit du temps.
Et vous ne croyez pas que là, ils sont en train de vous avoir avec l'histoire de Brantôme, non? Et de Margot qui portait les cœurs de ses amants dans des reliquaires accrochés à ses jupes.
Ou alors, autre possibilité, c'est Clémentine qui essaye de vous égarer.
Non, moi, je
ne sais
pas de vous égarer.
Non, mais est-ce qu'il buvait cette eau?
Ça me paraît pas ressembler à la Mole, qui est un gars extrêmement hardi, courageux. Est-ce qu'il n'était pas huguenot, la Mole, d'ailleurs, non? Peut-être pas quand même, peut-être pas.
Il était huguenot,
puisqu'il a été menacé au moment de la Saint-Barthélemy, et c'est Coconas, comment s'appelle-t-il, le gars qui lui sauve la vie. Je me demande s'il n'est pas huguenot, et s'il était huguenot, en aucun
jamais
cas il se baladait avec de l'eau bénite. Moi je répondrais non, je vous dis tout de suite.
Vous répondriez non, Stéphane, mon conseil, souvent le même, réfléchissez par vous-même.
Moi, je serais tenté de dire oui, parce que c'est tout à fait dans l'air du temps.
Par provocation, alors peut-être.
Non, mais non.
Moi, je pense pas
forcément.
Qu'il
c'est-à-dire qu'ils avaient tous peur d'aller en enfer. Ils avaient. Allez, je vais dire oui.
Il répond oui.
Vous avez.
Il a osé. Et comme quoi.
Perdu.
Oser, ça ne paye pas. C'est faux. C'est faux,
vous
Stéphane.
M'avez,
c'est faux.
Vous m'avez induit en erreur.
Non, mais voilà.
Vous l'avez fait
exprès. Non, mais Stéphane, depuis le temps, vous savez pas à qui vous pouvez faire confiance dans cette émission.
Cette émission,
écoutez,
on peut pas faire confiance à celui qui présente le quiz, mais à la personne qui joue contre vous. Ça n'a pas de sens. Faux. En revanche, pourquoi cette question? Parce que Joseph de Boniface de la Mole voyait 3 ou 4 messes par jour, persuadé que cela expiait ses péchés. Charles IX disait même qu'il suffisait de compter les messes où allait Joseph de Boniface de la Mole pour connaître le nombre de ses maîtresses.
C'est pas mal.
Ça. Ah, donc il y avait du vrai quand même.
Il y avait du vrai.
Ben, c'est l'époque de la où on apprenait à se mortifier de tous les péchés qu'on commettait.
C'était pratique.
Et c'était, Henri III par exemple, le frère de la reine Margot, lui s'auto-flagellait.
Oui, il était excessif en toute chose, Henri III. Et vous vous souvenez de Philippe d'Orléans se passant le chapelet
sur
le cœur avant de connaître bibliquement son épouse la Palatine.
Mais pourquoi il n'avait pas le droit de la connaître?
Non, c'était pour se porter chance.
Courage.
Ah bah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'on est en bon état après.
Bah, alors, vous n'avez pas vu les photos de la Palatine?
Non. Oh, écoutez, dans son jeune âge, elle était certainement très jolie,
oui,
la Palatine.
Mais il l'a pas connue dans son jeune âge.
Ça, c'est vrai.
Question numéro 2, les langues de pute de l'histoire. Question numéro 2, Bonaparte était jaloux du général Dumas, le père d'Alexandre, ce mulâtre originaire de Saint-Domingue, portait beau, 1m85, athlète. Résultat, quand Napoléon commande un tableau sur une bataille au Caire, il fait peindre un hussard blond aux yeux bleus à la place. Vrai ou faux?
Ah! À la fois, le Bonaparte est déjà très soucieux de sa communication et mettre un beau playboy géant à côté de lui sur un tableau qui est censé passer à la postérité, véhiculer son image, c'est vrai que ça serait possible parce que c'est un grand manipulateur. Mais en même temps, faire une chose pareille était quand même l'aveu d'une forme de faiblesse. Alors, est-ce qu'il était homme à ne pas assumer le fait d'être plus petit et ça me paraît curieux qu'il ait demandé. Il aurait demandé à ce qu'on remplace ça Dumas par un grand blond aux yeux bleus.
Et c'est la question que je vous pose précisément.
Non. S'il a fait ça, c'est pas bien.
Vous avez.
S'il a fait ça, c'est pas bien, Stéphane. Et pourtant, il l'a fait. Il faut dire que la rivalité était des deux côtés. Thomas Alexandre Dumas n'hésitait pas à dire du mal de Napoléon en son absence et en présence des autres généraux.
C'est pas bien, Bonaparte, d'avoir
c'est pas
fait
bien,
ça.
C'est
bravo.
Pas bien. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. 12 octobre 1492, tous les écoliers savent que Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Mais saviez-vous que Matteo Colombo a découvert la prostate? C'est un professeur d'anatomie à l'université de Padoue au XVIe siècle. Mais surtout, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Christophe Colomb découvre l'Amérique et Colombo découvre
l'Amérique. Colombo découvre. Non, ça paraît énorme.
Non, mais ça doit être vrai. Ça doit être vrai.
Ça doit être vrai, mais c'est tellement énorme que je dis non.
Vous avez gagné.
C'est une bonne réponse, Stéphane. C'est faux, mais Matteo Colombo a bien découvert quelque chose. Il a découvert le clitoris, et surtout sa fonction érogène. C'est ce qu'il affirme en tout cas, découverte contestée par un de ses collègues, Fallopio, qui lui dit avoir découvert avant lui le clitoris.
Mais il a découvert les trompes de Fallope, j'imagine, Fallopio.
Oh, alors je n'ai pas cette information, mais certainement. Question numéro 4 pour vous, Clémentine, justement. On sait que Louis XIV a la médaille d'or du règne le plus long pour un monarque français. On le sait moins, c'est Louis XV qui lui a succédé qui a la médaille d'argent avec un règne de 38 ans. Vrai ou faux?
C'est bien possible. Charlemagne, combien de temps a-t-il régné, Charlemagne?
Je ne peux pas vous aider, malheureusement, bien que je connaisse par cœur.
Peut-être 38 ans.
Ta réponse.
38 ans, plus de 40 ans. Je veux dire, c'est vrai.
Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse?
Donc, qui est-ce? Vous diriez quoi, vous?
Moi, je dirais que c'est vrai.
Ouais.
Allez,
bon,
c'est vrai.
Moi, j'ai dit c'est vrai, c'est spontanément ce que j'allais répondre.
Vous avez perdu.
C'est pas faute de vous avoir guidé vers la bonne réponse. Et non, il a la médaille d'argent, mais avec un règne de 58 ans, et pas de 38, comme je viens de dire. C'est très mal. Et c'est donc Stéphane Bern qui remporte. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, Clémentine.
C'est
j'ai honnête, tout
c'est
fait.
C'est vraiment un piège.
J'ai voyez, tout fait
parce
pour
que
vous
moi
aider.
Aussi, je sais que après Louis XIV, c'est Louis XV qui a le deuxième règne le plus long de l'histoire de France.
Mais c'est vrai que 38 ans m'a troublé. Je me dis vraiment.
Il faudrait. Il faut penser que les questions peuvent être comme ça, perverses comme moi, comme le roteur. Bravo, Stéphane.
Oui, mais je ne me félicite pas de cette victoire. À la pire route.
C'est tout à votre honneur.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. Deux heures de gai savoir festif autour de trois personnages très différents mais qui avaient un point commun aujourd'hui, Mathieu. Ils ont été enregistrés à leur insu.
Oui, Stéphane, moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse d'enregistrer les gens à leur insu. Après, on peut sortir certaines phrases de leur contexte, faire des montages odieux. Je suis sûr que je pourrais même vous faire passer pour un pochetron qui s'ennuie durant la coupure pub, si je vous l'étonnais.
Bon, je vais remplir mon verre, ça va m'occuper.
Ouais, dégueulasse.
C'est dégueulasse, je ferai jamais ça, moi.
Bien sûr, vous faites ça toute la journée, y compris dans la matinale. C'est ce qui est arrivé à nos personnages du jour. Après le maestro Arturo Toscanini, je vous raconte les déboires d'une milliardaire pas toujours bien entourée, Liliane Bettencourt.
Lui, au contraire, ne s'entoure que des meilleurs, ses fils, ses filles et ses beaux-fils qui le trouvent tous super. Oui, je vous rappelle qu'il aimait faire son entrée dans ses meetings sur la musique des Village People qui ont légitimement porté plainte. Que devient Donald Trump? Car lui aussi, souvenez-vous, avait été enregistré à son insu.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs qui, eux, sont enregistrés avec leur plein gré.
Oui, ils sont même payés pour.
Oui, David Cassel-Lopez qui nous raconte les origines d'une chose de notre vie quotidienne. Ou presque.
C'est de la vie quotidienne de vraiment un très petit nombre de gens. Ce sont les missiles qui n'explosent pas. Qu'on appelle aussi missiles ninja. Les missiles ninja. Qui ont été décrits comme des enclumes avec des épées accrochées qui tombent du ciel.
Qu'est-ce que c'est que cette chose?
C'est super, je vous raconterai. C'est vraiment
vous avez passé un bon week-end, ça va?
Des missiles très délicats.
Et puis Olivier Pouls qui va nous parler des tomates anciennes.
Oui, qui n'en sont pas d'ailleurs non plus. Parce que lui, il a des missiles qui n'explosent pas. Moi, je vous ferai des tomates anciennes qui ne sont pas forcément si anciennes que ça. Alors, il y en a quand même, fort heureusement. Mais il y a quand même une grosse arnaque qui se cache derrière tout ça. On essaiera de démêler le vrai du faux. Et puis, je vous donnerai une recette. Il y a une très bonne recette facile et délicieuse. On est en pleine saison de la tomate, on ne va pas se gêner.
Enfin, les amis, s'il y a des missiles qui n'explosent pas, il y a des chroniqueurs qui risquent, eux, d'exploser. En fin d'émission, durant notre quiz, la lutte finale, c'est violent, c'est légèrement bidonné en faveur de David Castello-Lopez, mais c'est bon. Et tout de suite, rendons visite à une dame d'un certain âge qui aimait bien recevoir et dont les visiteurs repartaient rarement les mains vides, désignée à plusieurs reprises femme la plus riche du monde, parce qu'elle le valait bien, héritière de l'Empire L'Oréal, elle s'est retrouvée à plus de 80 ans embarquée dans une rocambolesque affaire d'écoute. Stéphane Bern nous raconte Liliane Bettencourt qui a été enregistrée à son insu par son majordome dévoué, devenu un espion très discret. Parlez fort, Stéphane.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Comment imaginer une seconde
pas trop fort non plus.
Que l'employé le plus discret de la richissime Liliane Bettencourt devienne le personnage central d'une des plus célèbres affaires judiciaires de ces 20 dernières années. Et pourtant, entre 2009 et 2010, Patrick Bonnefoy, c'est son nom, enregistre une quinzaine de réunions entre Madame, comme il l'appelle, et certains de ses visiteurs. L'homme est devenu malgré lui un expert en enregistrement. Au service de la famille Bettencourt depuis 1990, il est tour à tour valet de chambre, maître d'hôtel, puis majordome. Il découvre alors un monde qu'il n'avait jamais pensé côtoyer, celui des milliardaires, leurs résidences luxueuses, les îles paradisiaques, les fêtes majestueuses, les toiles de maître, les jets privés, évidemment, des femmes et des hommes au train de vie aisé. En 2009, Liliane Bettencourt a 87 ans. Elle est la femme la plus riche d'Europe et la troisième femme la plus riche du monde, avec une fortune personnelle estimée à quelque 20 milliards de dollars.
Liliane Bettencourt vit à Neuilly, l'une des villes les plus riches de France. Elle habite un magnifique hôtel particulier, 1000 mètres carrés, 5 étages, une piscine de 30 mètres bien cachée par un haut portail et une allée de peupliers. L'intrigue qui nous intéresse se déroule au premier étage, dans le boudoir. Entre la chambre de Liliane et celle désormais vide de son mari, l'ancien ministre André Bettencourt, décédé 2 ans plus tôt. C'est dans cette pièce, réagencée en bureau, que le majordome espion va officier. Puisque c'est là que Liliane Bettencourt accueille les quelques amis qui lui rendent visite, pour la distraire. Parmi eux, un photographe écrivain, François-Marie Bagné. Ils se sont rencontrés en 1987 et depuis ces deux-là sont inséparables. Liliane le couvre de cadeaux, du vin, des toiles de maître évaluées à près de 20 millions d'euros. Elle lui offre aussi des sommes conséquentes sous la forme de chèques, de cessions de créances dans ses sociétés immobilières, des contrats d'assurance vie. Le fisc aurait estimé le total des largesses à plus de 820 millions d'euros. Vous l'aurez compris, Liliane Bettencourt est très généreuse. Et certains hommes notamment ne savent pas dire non. Mais notre majordome veille au grain. Il s'inquiète pour la fortune de Madame Bettencourt. Et il le reconnaît. Il a peur pour son propre avenir. Car depuis quelque temps, plusieurs employés ont été congédiés. Alors, il prend une décision radicale. Mettre sur écoute sa patronne en personne. Pour une femme qui n'entend plus beaucoup, c'est un comble. Patrick Bonnefoy se procure un dictaphone numérique. À l'abri des regards, on rapporte qu'il le dissimule sous une pochette de feutrine noire posée sur le bureau à quelques mètres de l'endroit où Liliane Bettencourt reçoit. Plus tard, le majordome confiera « Je voulais savoir ce qui se tramait contre moi. J'étais loin de me douter de ce que j'allais découvrir. » Car, durant une année, il enregistre une quinzaine de discussions. 22 heures de conversation qu'il conservera précieusement sur 27 CD-ROM. Dès que les invités quittent la résidence, il récupère l'appareil et écoute fébrilement dans sa voiture les enregistrements du jour. Contre toute attente, le majordome ne découvre rien sur son potentiel renvoi. En revanche, il s'aperçoit que de nombreux visiteurs semblent en vouloir à la fortune de sa patronne. Il l'incite à réaliser des opérations financières que certains journalistes, avocats, jugeront floues. Dans l'un des enregistrements, Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, met en garde sa cliente contre François-Marie Bagné, son ami photographe. « J'ai vu l'avocat de Bagné en Suisse, et Bagné vous a pris 20 millions pour les mettre dans la nouvelle fondation », expliquait-il à l'époque. Ces enregistrements laissent bouche bée le majordome. Que penser ? Sa patronne, qui est de plus en plus diminuée physiquement et psychologiquement, ne reconnaît pas toujours ses visiteurs. Serait-elle alors victime d'abus de faiblesse ? Ou au contraire, l'héritière de L'Oréal est-elle en totale possession de ses moyens quand elle écoute son gestionnaire évoquer ses placements financiers en Suisse ? Il faut enlever le compte de Suisse puisqu'il y a une loi qui va permettre à l'administration française de savoir si vous avez de l'argent en Suisse. Il faut qu'on boucle ce compte. Je suis en train d'organiser le fait de l'envoyer dans un autre pays, que ce soit Hong Kong, Singapour ou en Uruguay. Ces enregistrements comportent également un volet politique. Patrice Demestre demande un jour à Liliane Bettencourt de signer des chèques à l'attention de Valérie Pécresse, alors candidate UMP pour les régionales en Ile-de-France, d'Éric Woerth, alors ministre du budget, et de Nicolas Sarkozy. Le gestionnaire se justifie dans la conversation. « Bon, c'est pas cher, c'est le maximum légal, 7500. En ce moment, il faut qu'on ait des amis. » Liliane Bettencourt suscite l'intérêt. Il faut dire que l'octogénaire est l'une des personnalités françaises les plus convoitées, et ce, presque depuis sa naissance. Née en 1922, elle est la fille unique d'Eugène Schuller, le fondateur du groupe L'Oréal, et de Louise Doncieux. À 35 ans, elle hérite de l'entreprise florissante de son père. Toute sa vie, Liliane la passe sous le feu des projecteurs. À la tête de sa propre fondation, elle devient dès 1980 la femme la plus riche de France. Pas étonnant donc que de nombreuses personnes aient pu vouloir passer de la pommade à cette papesse de la cosmétique. Alors que le majordome Patrick Bonnefoy avait confié ses enregistrements à l'unique fille de Liliane Bettencourt, et après une procédure judiciaire très médiatisée, le dénouement de l'affaire a enfin lieu. Un accord a été trouvé entre la fille de Liliane Bettencourt et François-Marie Bagné. Le majordome, les dirigeants politiques, les témoins et les journalistes ont été mis hors de cause par le tribunal le 21 septembre 2017, le même jour où Liliane Bettencourt s'est éteinte chez elle, dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Stop. Fin de la bande.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Liliane Bettencourt, nous sommes Stéphane avec le journaliste Yann Hamel.
Bonjour Yann Hamel, vous êtes journaliste d'investigation, correspondant pour Le Point en Suisse et vous êtes l'auteur de l'enquête « Les Bettencourt, dernier secret » paru aux éditions de l'Archipel. Des secrets, Liliane Bettencourt en a-t-elle emporté beaucoup, à votre avis, dans sa tombe? Sa position, sa fonction, sa fortune l'obligeaient évidemment à une certaine discrétion.
Oui, je crois qu'il y avait beaucoup de secrets. On commence par son papa, Eugène Schuller, qui est un homme d'affaires exceptionnel, extraordinaire, mais aussi avec des gros défauts, c'est-à-dire qu'il a une admiration sans borne pour Hitler.
Oui, ça c'est un peu gênant. Mais...
L'autre élément, c'est que ce papa, il a ouvert des comptes en Suisse. Ce qui a permis, par exemple, d'acheter l'île en passant par une fondation aux Seychelles. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après, il y a des gens dans l'entourage de Liliane Bettencourt et notamment gestionnaire de fortune qui appelaient l'avocat qui était Maître Merck en disant « Bonjour, Madame Bettencourt, je souhaiterais avoir un million ». Alors, est-ce que Madame Bettencourt, à son âge, savait téléphoner, ou est-ce que ce million allait ailleurs? Donc, c'est déjà un secret qui pèse lourd.
Elle avait des problèmes avec les zéros, non, à la fin.
Je crois qu'elle, oui, c'est ça. Je crois qu'elle ne le savait même pas. Et puis, l'autre malheur pour elle et le secret, c'est que elle a épousé André Bettencourt, qui, à la libération, a eu des kilos de médailles de résistants, mais qui n'était pas vraiment. Et en 94, on découvre qu'il était au contraire collaborateur. Donc ça fait beaucoup de choses à supporter.
Beaucoup de casseroles, effectivement.
De casseroles pour Madame Bettencourt, c'est pas très drôle. Hein.
On revient aux enregistrements proprement dit. Dans votre livre, vous écrivez que lorsqu'André Bettencourt, époux de Liliane Bettencourt, était à la fin de sa vie, le majordome avait installé un lit de camp dans sa chambre pour être à ses côtés. Quel était son rapport, ce majordome, avec les Bettencourt avant les enregistrements? Qu'est-ce qu'il connaissait de Liliane Bettencourt et de sa famille? Tout ou rien, comme lui oblige son rôle.
Bon, effectivement, c'était le majordome de M. André Bettencourt, donc il était attaché à M. Bettencourt. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez cité ce photographe, et ce photographe se foutait de la tête d'André Bettencourt, qui était déjà un vieux monsieur. Il l'appelait Gestapette, par exemple.
Ah oui.
Oui, non, tout à fait. Non, il se moquait de lui. C'était assez horrible, et je crois que quelque part, ce majordome attaché à André Bettencourt était révolté. Bon, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais je crois que c'était un type honnête.
Vous pensez qu'il était animé de bonnes intentions, finalement?
Je vais dire même si on peut se poser des questions. J'ai pas dit que c'était bien d'enregistrer, surtout non. pas. Mais je crois pas, parce qu'on a parlé, est-ce qu'il avait reçu des sommes d'argent? J'ai pas l'impression. Mais bon.
Mais en réalité, il voulait protéger madame ou se protéger lui?
Oui, les deux. Tout à fait. Parce que bon, on licenciait beaucoup autour de madame Bettencourt. Et puis je pense qu'il a dû être assez écœuré de voir ce qui se passait. Quoi.
Mm-hmm. En vous écoutant, en revenant sur cette histoire qu'on a tous entendue dans les médias, il y a quand même une question qui se pose. Hein. Il y a que ce majordome qui se dit, il y a quelque chose qui cloche. Cette dame, elle est abusée. Pardon, elle avait pas d'amis proches pour lui dire, écoute, Liliane, là, il y a quand même des gens qui autour de toi.
Vous verrez les milliards, ça isole.
Mais c'est incroyable à quel point la fortune à ce moment-là.
Elle était isolée.
Tout à fait. Moi, je vais donner un exemple. C'est le maître Merck, donc, qui était l'avocat. Et le fils de cet avocat s'est occupé de la famille Bettencourt. Donc, il est au conseil d'administration de L'Oréal Suisse, etc. Donc, il gagnait beaucoup de sous. Et surtout, quand il s'aperçoit que Madame Bettencourt veut donner l'île au photographe, et il va voir Madame Bettencourt en disant, vous ne vous rendez pas compte, vous spoliez votre fils, pas possible. Et Madame Bettencourt le jette dehors comme un va-nu-pied, comme une bonne, quoi. Alors que c'est un vieux monsieur qui a 75 ans, un avocat qu'elle connaît depuis 30 ans, c'est va-t'en, quoi. Et voilà, il faut voir comment elle pouvait se comporter, cette dame.
Oui, mais dans le même temps, ce photographe dont on parle l'a beaucoup amusée.
Ah, je crois,
parce que je crois qu'elle s'ennuyait ferme dans son hôtel particulier de... C'est pas pour le défendre, mais...
Est-ce
c'est
que
vrai
ça valait 820 millions d'euros, Stéphane?
Mais quand vous le savez...
Parce que moi, j'aurais voulu la divertir aussi,
non,
à ce
moment-là. Non, mais c'est pas ça, quand vous n'avez plus de notion des chiffres. Quand vous savez plus si c'est 82 euros, 820 euros ou 820 millions.
Oui, mais c'est quand même un but de faiblesse sur une. Ça spoil ses héritiers, en tout cas.
Oui, mais bon, elle a pas dû rire très souvent. Lui, il urinait dans ses bégonias. Bon, c'est la première fois de sa vie où il y passait les fesses. Je pense qu'on lui a jamais passé les fesses. Bon, à 87 ans, écoutez.
Vous avez écouté, vous, les enregistrements?
Oui, je les ai écoutés.
Et alors, c'est passionnant?
Non. C'est rien d'autre à faire. Non, c'est attristant, je veux dire. Ouais. La pauvre dame, elle suit pas, quoi.
Ah oui, on sent, oui.
Elle suit pas, mais je veux dire, d'abord, elle a pas fait d'études parce que son père, Eugène Schuller, quand on lit les livres, puisqu'il écrivait des livres, si vous voulez pas avoir de chômage en France, ben vous, toutes les femmes rentrent à la maison et puis il y a que les hommes qui travaillent. Donc elle, elle a jamais eu, elle a pas fait d'études. Il lui a jamais donné de fonction au sein de. Elle collait quand elle était gamine, elle collait les étiquettes sur les boîtes L'Oréal, quoi. Ouais. C'est tout ce qu'elle a fait. Mmh. Bon après, c'est elle qui a hérité, mais il lui a jamais dit tiens tu vas devenir directrice adjointe d'une succursale au Japon ou ailleurs. Donc elle les chiffres elle les connaît pas.
La justice a fini par mettre hors de cause le majordome dans l'affaire Bettencourt. Ça a fini par le disculper. Enfin, vous en témoignez, il n'avait pas de volonté de nuire. C'est lui au contraire qui a mis en lumière les agissements douteux autour de Liliane Bettencourt.
Oui, tout à fait. Bon, on n'a pas retrouvé. Est-ce qu'il a touché des sous, comme certains l'ont prétendu? Je crois qu'on n'a jamais pu le prouver.
Bah, merci Yann Hamel. Je rappelle le titre de votre livre, Les Bettencourt, dernier secret, paru aux éditions de l'Archipel. Et le prochain, Xavier Bertrand, l'obstiné, paraîtra aux éditions de l'Archipel le 23 septembre prochain.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont été enregistrés à leur insu. Après Arturo Toscanini et Liliane Bettencourt, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99% vrai d'un monsieur dont les problèmes sont plus récents.
Oui, mon personnage du jour est un homme d'un certain âge, très très célèbre, très très riche et tristement réputé pour ses manières pas très distinguées avec les femmes.
J'adore Patrick Bruel.
Non Stéphane, on embrasse Patrick, moi je vous parle de Donald Trump. Ça n'a rien à voir. Donald Trump qui en 4 ans à la Maison Blanche nous a prouvé qu'il était capable de dire des énormités devant un micro. Et finalement, on n'a donc pas été trop surpris lorsque des enregistrements ont fuité de découvrir qu'il pouvait dire encore pire en privé. Le mieux, c'est que ces enregistrements, pourtant gratinés, ne l'ont pas empêché d'être élu. Alors Trump, bon, on se l'est coltiné pendant 4 ans, tout le monde s'y tue, on va faire une bio express. Et sans attaque physique, hein, c'est bon, hein, le côté bouffi, peroxydé, tout le monde l'a fait en long et en large. Comment on peut résumer ça élégamment sans s'apesantir dessus, David?
C'est une sorte de strum.
Voilà. Sinon, vu la personnalité binaire de l'ex-président, qui demandait toujours à ses conseillers si telle chose était good et si telle chose était bad, sans jamais imaginer que quelque chose puisse être in between, on peut résumer Trump par un j'aime pas. Donald aime, selon les sites spécialisés, le Coca-Cola, la glace vanille cerise, le bacon, le KFC, le McMuffin, les Oreo cookies, le golf, les Frosties, Twitter et les femmes qui portent de la lingerie. Donald n'aime pas l'écologie, les noirs, les femmes, les homosexuels, le pire étant les femmes homosexuelles noires, les immigrés en général, les mexicains en particulier, les asiatiques, les journalistes, les musulmans et la ville de Paris où il y a trop de musulmans. Donald Trump naît le 14 juin 46 dans le Queens, à New York. Son enfance, eh bien, nous parlons l'autre jour de la méthode Montessori. Vous vous souvenez cette formidable méthode d'éducation basée sur l'écoute de l'enfant, la compréhension, l'empathie et visant à donner des adultes épanouis et aimants? Eh bien, le papa de Donald, il l'avait pas lu. La méthode Montessori, Trump Senior était promoteur immobilier, un métier où il ne faut pas se laisser bouffer par l'empathie, sinon tu commences à vouloir utiliser des matériaux de qualité et tu rognes sur ta marge. L'éveil des gosses, il s'en foutait à peu près autant que Pulse du mouvement vegan. C'est vous dire, il répétait à ses enfants qu'ils étaient tous des ratés, que le seul truc important dans la vie, c'était l'argent et que donc la réussite ne se mesurait qu'en dollars. À la fac, il suit un cursus économique, faut dire que maintenant papa croit en lui, c'est le moins nul des cinq, déclare-t-il toujours dans cet esprit très Montessori. C'est lui qui va lui succéder à la tête de ce qui est désormais un empire immobilier. Il le prend sous son aile, le prépare, et ce que Donald espérait arrive enfin, il crève. Alors pardon, ce que Donald redoutait arrive enfin, il décède. Quel malheur, un si gentil papa. Mais il faut se remettre au boulot. Donald devient CEO de la Trump Company. Son obsession primaire, construire de grandes structures phalliques qu'on appelle gratte-ciel et coller son nom dessus. Mais l'appétit vient en mangeant. Je suis déjà multimillionnaire, pourquoi ne pas devenir président des États-Unis, se demande un matin Donald en gobant un pancake. Premier essai en 96, fiasco. Mais en 2016, il se présente à nouveau à la primaire des Républicains, où il est à peu près aussi crédible qu'Éric Ciotti à la primaire de nos Républicains. Pourtant, déjouant tous les pronostics, il gagne. Ne sachant pas que le groupe Village People est associé dans l'imaginaire collectif à la défense des droits LGBT, il choisit de terminer chacun de ses meetings en dansant sur YMCA. Rebelote, candidat républicain passe encore, mais Trump président de la première puissance mondiale, no way. Le 8 novembre 2016, Stéphane manque de s'étouffer avec un scone. Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. S'en suivent 4 ans de cauchemar pour les démocrates sincères du monde entier qui ne rêvent que d'une chose, Stéphane, voir Trump.
Touché par un coup d'arquebuse alors qu'il allait satisfaire un besoin naturel.
Oh non, destitué, tout simplement. Ce qui a failli arriver deux fois, mais non. Et c'est pas si étonnant, car on pouvait rien découvrir de Trump qu'on avait déjà vu ou entendu durant la campagne. Une campagne rude, voire sale, avec donc des tentatives de déstabilisation à base d'enregistrements clandestins. Le plus retentissant,
une conversation scabreuse entre Donald et l'animateur de NBC, Billy Bush. Un enregistrement sonore de moins de 2 minutes, vieux de 11 ans, dans lequel le futur président tient des propos merveilleusement poétiques concernant la gente féminine. Le point d'orgue de cette discussion entre gentlemen étant le désormais célèbre « Quand tu es une star, elle te laisse faire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les attraper par la chatte. Grab them by the pussy, Stéphane. » Des propos si grossiers et misogynes que certains journaux français ont opté à l'époque pour cette traduction aussi pudique qu'inconséquente « Attraper les femmes par l'entrejambe », ce qui, au-delà du caractère illégal du geste, est totalement infaisable d'un point de vue moteur, si je puis me permettre. On ne peut très difficilement attraper un autre être humain par l'entrejambe. Mais là n'est pas la question. Cette vidéo, enregistrée à son insu, est révélée au public en octobre 2016 pendant la campagne. Billy Bush est viré, conspué, abandonné de tous. Trump aussi, du coup. Ah non, lui, il est élu président, défendu notamment par sa femme Melania, qui accuse Billy Bush d'avoir poussé son mari à tenir ses propos. C'est bien connu, Donald Trump, en grand timide qu'il est, a souvent besoin d'un petit coup de pouce pour se désinhiber un peu. Aussi outrancier soit-il, ses propos n'ont donc pas découragé ses supporters et ses supportrices de voter pour lui. Attraper les femmes par la... Mon Dieu, quand même. Avec Stéphane et Olivier, on était choqués. David, moins.
David est moins sensible à la souffrance de la moule.
Oui, mais il y a quand même une justice. Il y a quand même une justice. En 2020, il brigue un second mandat, mais échoue dans les circonstances pathétiques qu'on sait. Joe Biden finira par être élu, mais comme un enfant obèse refusant de partager son goûter, Donald tiendra à se ridiculiser jusqu'au bout. On se souvient tous de ces tentatives répétées pour faire invalider l'élection, mais vous souvenez-vous de cet autre enregistrement mythique révélé par le Washington Post où on entend Donald carrément menacer le directeur des opérations de comptage en Géorgie ? Écoutez, ce que je vous demande, c'est ça. Je veux juste trouver 11 780 voix. Vous pensez que les bulletins de vote ont été détruits dans le comté de Fulton parce que c'est ce que dit la rumeur ? On lui répète au bout du fil qu'il n'y a pas de fraude. Donald insiste. Dites-moi, Brad, qu'allons-nous faire ? Nous avons gagné cette élection. Ce n'est pas juste de nous la voler. Puis, à court d'arguments, Donald se répète. J'ai seulement besoin de 11 000 votes, les gars. J'ai besoin de 11 000 votes. Laissez-moi tranquille. Hurle l'enfant obèse qui ajoute, menaçant. Vous prenez un gros risque. Ce que vous faites, c'est un crime. Il faudra plusieurs semaines à l'enfant obèse pour comprendre que compter les voix n'est pas un crime et qu'il accepte de reconnaître sa défaite. Boudeur, il n'assistera pas à la passation de pouvoir, il préférera aller jouer au golf. Dans les moments importants, c'est d'ailleurs toujours son réflexe, aller jouer au golf durant la crise du Covid, au moment de Black Lives Matter. Mais savez-vous combien de jours il a passé au golf durant son mandat ? 251 jours. Et savez-vous combien ça a coûté aux contribuables américains ? C'est marrant, vous me direz 0 dollar, vu que le type est milliardaire et qu'il peut donc financer
et
ses voyages privés.
C'est son golf.
Sur ses deniers privés, c'est son golf. Ah non, il a oublié. Du coup, ça a coûté 134 millions de dollars aux Américains.
Ah.
Et,
ouais.
Et comme vous dites, David, en tout cas, vous voyez, Stéphane, c'est pas la peine de paniquer quand je menace de diffuser un enregistrement de vous disant n'importe quoi hors antenne. Visiblement, ça n'a aucun impact sur les gens. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, peut-être que chez nous, si je diffusais le fameux son, tu vois duquel je parle.
Ah non, ça n'enregistre pas. Ah non, tu peux pas. Non, mais vraiment, non, les mecs, là, moi je saute.
Quel monstrueux secret cache Stéphane ? Rendez-vous un jour dans Historiquement Vôtre.
Merci Mathieu. C'est vrai que dans cette émission, on se raconte nos vies et voilà.
Et parfois on le regrette.
Et parfois on le regrette parce que il y a des oreilles qui nous écoutent. Tout est enregistré.
Europe 1, Historiquement Vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour puisque nous entrons dans la dernière demi-heure Historiquement Vôtre. Avant la lutte finale, on vous propose non pas un retour vers le futur, mais plus modestement, bon, un retour vers le présent.
Avec nos champions, Stéphane, nos champions qui remontent aux origines. Alors, Olivier Pouls, vous entraînez aux origines des tomates anciennes. C'est très, très ancien.
L'année dernière, on avait fait l'origine de la tomate tout court. On était remonté très, très loin, ouais. Mais...
À la tomate ancienne, on va remonter encore plus loin.
La tomate ancienne, on pourrait remonter encore plus loin, on le pense, mais en fait, non.
Non.
Surprise, en perspective, scoop Europe 1, en perspective.
Et puis, tout de suite, David Cassel-Lopez, mais oui,
avec,
qui remonte aux origines.
Aux origines des missiles, mais pas n'importe lesquels.
Non.
Ceux
qui n'explosent pas.
Ouais,
tout à fait. Alors, moi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve que quand même, la plupart des gens sont sympas. Voilà, je veux dire, ils sont pas forcément intéressants, peuvent même très ennuyeux. Il y en a qui sont très laids, mais dans l'ensemble, on peut échanger avec eux. Dans l'ensemble, on peut échanger avec eux quelques minutes de façon assez fluide et agréable. Mais il y a quand même des gens qui sont pas bien du tout. Par exemple, les gens qui vous trahissent. Hein, j'en ai quelques-uns en tête pour moi-même. Et eux, vous rêvez qu'ils soient morts, non seulement par désir de vengeance, bien sûr, mais aussi parce que le monde serait un meilleur endroit s'ils n'étaient pas là, un meilleur endroit sans eux. Mais le problème, c'est que tuer les gens, logistiquement, c'est pas facile, c'est difficile, notamment parce que les gens que vous avez envie de tuer, eh bien, ils n'ont pas envie d'être tués. Hein, et donc, ils ont tendance à se défendre, et ça peut vous poser des problèmes, ça peut être dangereux pour vous. Alors, pour résoudre ce problème, les spécialistes du meurtre, ils recommandent généralement une méthode qui a fait ses preuves, qui est de tuer les gens de très loin. Voilà, ça c'est plus sécurisé pour celui qui tue. Les meilleurs snipers du monde, par exemple, ils peuvent tuer les gens jusqu'à 3 km avec leur fusil. Mais le problème, c'est que le sniping, c'est assez incertain.
Le sniping, on dit
oui,
comme ça.
Le sniping, ouais, le ouais, fait ouais. de sniper, c'est assez incertain comme méthode parce que la balle du fusil, elle met plusieurs secondes à parcourir les 3 km et que pendant ce laps de temps, la personne que vous essayez de tuer peut bouger et oui. donc vous la ratez. Vous pouvez pas tuer la personne. Sinon, il y a les drones aussi. Ça, c'est assez bien. C'est-à-dire que vous pouvez être chez vous à Paris sur votre canapé à siroter un cognac et vous tuez des gens qui sont au Guatemala. Ça, c'est pratique. Et quand vous en avez marre, vous pouvez vous sortir de votre canapé, vous regarder Koh-Lanta, etc. Mais le problème avec les missiles qu'envoient les drones, c'est que quand ils explosent, ils sont susceptibles de tuer tout un tas de gens autour qui, eux, sont très sympas et que vous n'avez pas du tout envie de tuer. Et c'est là qu'intervient mon sujet du jour qui intervient donc aux deux tiers de ma
chronique. Oui, souvent c'est le cas, j'ai remarqué ça.
C'est probablement un record aujourd'hui. Mon sujet, donc, les missiles qui n'explosent pas et qu'on appelle aussi les missiles ninja. Le missile ninja, c'est un bijou de violence. C'est de l'orfèvrerie balistique. Je veux dire, c'est un missile d'une délicatesse, d'une fiabilité, d'une douceur exemplaire. En gros, les missiles ninja, ce sont des missiles qui, un, sont très lourds et deux, juste avant de toucher leur cible, ils déploient sur les côtés des lames super tranchantes. C'est des sortes d'enclumes avec des épées accrochées qui tombent du ciel et qu'on envoie généralement sur des voitures qui contiennent des ennemis de la démocratie. Et le résultat, du point de vue de l'efficacité guerrière, il est splendide. C'est-à-dire que le missile découpe en morceaux définitifs tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, mais c'est tout. Vous pouvez être à un mètre de la voiture attaquée, en train de manger une glace, eh bien, vous pourrez continuer à manger votre glace. Bon, bien sûr, vous allez être un petit peu surpris et ça risque de gicler un petit peu, vous voyez, mais c'est tout.
Vous allez avoir des toppings supplémentaires sur votre glace que vous n'aviez pas demandé.
Il y a même des militaires qui disent que c'est théoriquement possible de tuer le passager d'une voiture
sans
mais
le conducteur.
Pas le conducteur. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement qui a inventé le missile ninja parce que, encore à l'heure où je vous parle, c'est un missile secret dont les États-Unis n'ont pas officiellement révéler l'existence, mais on sait qu'il existe, et qu'il existe au moins depuis 2011, parce qu'on sait que les États-Unis ont envisagé de l'utiliser pour tuer Oussama Ben Laden, avant d'opter pour des méthodes un petit peu plus directes. La première personne dont on est, disons, à peu près certain qu'elle a été tuée de cette manière, c'est un monsieur égyptien, qui s'appelait Ahmad Hassan Aboukaïr Al-Masri, qui était le numéro 2 d'Al-Qaïda, et c'était en février 2017. Alors, si cette chronique vous a donné envie, Mathieu, Stéphane, Olivier, d'utiliser des missiles ninja pour tuer des gens que vous n'aimez pas, des rivaux, il faut tout de même savoir que c'est cher hein, quand même, puisque c'est environ 100 000 euros missile. Mais c'est le prix de la violence chirurgicale.
Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet.
Oui, qui voulez-vous éliminer?
Oui, exactement. Vous avez vraiment un ennemi.
J'ai des petites idées, mais il faudrait que je sois un peu copain avec le gouvernement américain. Écoute,
d'accord.
Écoute, Joe, s'il te plaît, aide-moi.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, chaque après-midi on remonte aux origines d'une invention ou d'un petit plat. Aujourd'hui, un produit qu'on aime tous, la tomate,
oui.
Mais la tomate ancienne, Olivier Pouls.
Vous l'avez dit, un petit plat, mais aussi une invention. Je marcherai presque sur les plats de bord de David Castello-Lopez avec cette chronique. Alors l'année dernière, à la même saison, j'avais fait l'histoire de la tomate tout court, hein, 16e siècle, ramenée d'Amérique du Sud, etc., etc. Puis comme on est vraiment en pleine période de la tomate, je me suis demandé ce que je pourrais faire en variante pour être encore un petit peu plus complet. Alors, il ne vous a pas échappé, lorsque vous allez au marché ou évidemment dans les grandes surfaces, parce que l'offre de tomates depuis quelques années s'est quand même considérablement élargie avec ce qu'on appelle les tomates dites anciennes ou de variétés anciennes. Parmi lesquels on va retrouver la Green Zebra, la Noire de Crimée, la tomate ananas, la cœur de bœuf, des formes, des couleurs différentes. Et finalement, on se demande d'où elles viennent. Sont-elles réellement anciennes? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, enfin moi qui ai une cinquantaine d'années, il y a 30 ans, il n'y en avait pas. L'offre de tomates, c'était globalement que de la tomate ronde que tout le monde connaissait.
Ou celle de Provence.
Ou quelques tomates de Provence, mais il n'y avait pas tout ce choix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Petit retour en arrière, dans les années 60, la culture de la tomate explose en France. Il y a une énorme demande et surtout, elle s'industrialise de manière considérable avec une course à la production et un choix de variété qu'on veut très restreint parce qu'on veut de la productivité. Et puis surtout, pour l'industrie, on a besoin de tomates qui soient parfaitement calibrées, qui poussent à peu près dans toutes les conditions, sous serre, etc. Et on va terriblement appauvrir pendant cette époque le nombre de variétés de tomates et finalement le choix qu'on va proposer. Dans les années 2000, une poignée de maraîchers, et je pense notamment à Joël Thiébaud en région parisienne, souhaitent redonner aux tomates leur lettre de noblesse et souhaitent en tout cas proposer à des chefs des variétés un petit peu plus intéressantes que ce qu'il existe et ramener la tomate sur la scène de la gastronomie. Alors ils vont se pencher sur des variétés un peu plus ancienne, effectivement, qu'on avait abandonné pour des raisons notamment de productivité, de coûts, de ceci, de cela. Et ils vont faire renaître ces tomates. Alors ça, c'est très bien, c'est super, tout le monde s'emballe, les grands chefs sont ravis, la tomate revient dans les restaurants et on découvre sur le marché des saveurs qu'on avait oubliées. Mais le problème, c'est qu'évidemment, quand ça marche et que ça rapporte de l'argent, eh bien, vous avez l'industrie qui se penche dessus. Et quand elle se penche dessus, en général, elle fait beaucoup de dégâts parce que elle, évidemment, la pureté des races anciennes, elle en a rien à faire. Le fait que les tomates soient cultivées en pleine terre et mûries au soleil, elle n'en a rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accaparer ce marché en créant des variétés totalement récentes, des hybrides qui n'ont de nom d'anciens que finalement la promesse qu'on vous met. Et il y a un très bel exemple, c'est la cœur de bœuf. Si vous allez acheter une tomate cœur de bœuf en grande surface aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une tomate, vous savez, ronde, très boursouflée. Et ben ça, c'est un pur hybride, pur produit de l'industrie agroalimentaire. L'authentique, la vraie cœur de bœuf, qui ne représente même pas 5% de celle que vous trouvez, eh bien c'est une grosse tomate d'origine italienne qui ressemble effectivement à un cœur, qui est une forme de cœur et qui est toute lisse. Et qui n'a rien à voir avec la cœur de bœuf telle qu'on vous vend aujourd'hui en grande surface.
Moi, j'ai l'impression d'être tellement malin à chaque fois que je dis vous me mettrez des cœurs de bœuf, comme ça j'ai l'impression d'être un fin gourmet et tout ça. En fait, on se fait complètement arnaquer.
Il faut aller au conservatoire de la tomate à la Bordésière.
Exactement.
Chez Louis-Albert de Breuil. Oui, c'est vraiment bien.
Dans son château en Touraine, où il y a 700 variétés de tomates.
Ah, c'est le roi de la tomate?
Il y a 700 variétés de tomates qui sont conservées. Et là, on peut retrouver plein de plans d'origine et de choses absolument passionnantes autour de ça.
Il y a un monde fou, hein. Parce que ça attire beaucoup de monde.
Et on peut en acheter ou c'est
oui, bien sûr.
On peut en acheter.
Et vous avez un bar à tomates, vous avez toutes
exactement.
Sortes d'activités.
Et donc on va rappeler que, qu'elle soit de variété ancienne ou de variété récente, la tomate doit être de pleine terre, elle doit pousser évidemment au soleil, serre éventuellement, mais pas serre chauffée, pas hors sol. Et si vous avez 2 minutes, je vous donne rapidement avec une cœur de bœuf, une petite recette, et ça va vous convenir, Stéphane, parce que je sais qu'en ce moment,
on a besoin de...
On dégraisse.
La tomate, c'est parfait. Eh bien, vous allez faire un tartare tel qu'un tartare de viande, mais en remplaçant la viande par de la cœur de bœuf, parce que la cœur de bœuf, ce qu'elle est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup de chair. Elle a une chair qui est très intéressante, qui a de la fermeté, qui a de la mâche. Donc, vous allez monder deux belles tomates cœur de bœuf. Monder, c'est-à-dire...
Oui, rappelez-moi, monder.
Enlever la peau. Tout simplement, on fait une petite croix, on plonge dans l'eau bouillante pendant 15 secondes et la peau s'enlève toute seule.
Ah, ça fait un suprême de tomates, en quelque sorte.
Ça va faire, vous allez lever vos suprêmes de tomates. Il n'y aura plus que la chair que vous allez couper en petits dés. Et puis, on va faire un assaisonnement assez classique de tartare. On va rajouter une échalote. Rajouter quelques capres, un peu d'huile d'olive, un peu de moutarde, un petit peu de vinaigre, quelques herbes avec persil, ciboulette. Je rajoute une petite touche de sauce soja. Il y en a un trompe-l'œil. On a vraiment l'impression d'avoir un tartare de viande. Mais évidemment, c'est pas de la viande. C'est beaucoup moins gras.
C'est de la tomate. Idée, mais bravo. Très belle idée. Inventivité.
Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1. Historiquement vôtre.
C'est indéniablement le moment fort de l'émission. Chaque fois, c'est les mêmes regards, les mêmes gestes. D'abord le neurone droit, puis le neurone gauche. Et un coup d'œil rapide à la feuille de Stéphane pour essayer de pécho les réponses. C'est la lutte finale.
Oui, alors, bon, c'est une bataille, hein, simplement, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire de France, entre Olivier, Mathieu et David, pour savoir lequel est le moins nul en histoire. Une question pour chacun, puis une autre question pour les départager si vous êtes ex-aequo. Allez, c'est parti. Olivier, c'est à vous l'honneur. Le 6 juin 1944, dans les 177 soldats qui débarquent pour la première fois en Normandie sur Sword Beach, il y a 9 Belges. Vrai ou faux ?
Oui, bien sûr, il y a des Belges avec. Évidemment, on est courageux, on y va.
Mais non, ils sont tous français, Olivier. C'est le commando Kiefer, du nom de leur commandant. Cette unité existe même toujours aujourd'hui. Fait partie des
des commandos marines d'élite. Ouais.
Qu'est-ce qui dit qu'il n'y avait pas de Belges dedans?
Il n'y en avait pas.
Si, ils étaient venus de Belgique pour aider.
Mais par où ils étaient venus?
À la frontière, tranquillement. Ils étaient déguisés, ils étaient arrivés.
C'est déguisé, effectivement.
Ça me tue parce que la question pour David est tellement facile.
Oh non, alors ça c'est dégueulasse parce que si jamais je ne sais pas, j'ai l'air
honteux,
cher,
c'est honteux,
très bête. David, pour désigner le mari d'Elisabeth II, le prince Philippe, on parle de prince consort. Bien, l'origine de l'expression est française. Il désigne le prince consort à l'extérieur du palais pour accompagner la reine. C'est vrai ou c'est faux?
Bon, je m'en vais. Moi, personnellement, c'est, j'ai quand même mieux à faire que d'écouter vos bêtises.
C'est faux.
Non, mais à un moment, mais qui conçoit ces questions? C'est pas possible, Stéphane. C'est vous.
Puis surtout, pourquoi s'acharner contre moi et donner des questions?
Consort avec un T qui veut dire comme sorte, qui veut dire qui partage le sort de. Mathieu, vous le savez forcément, trois personnes sont actuellement prétendant à la couronne de France. Il y a Louis de Bourbon, Jean d'Orléans et Jean-Christophe Napoléon. Si on devait donner la couronne à celui qui a le plus d'abonnés sur Twitter, qui gagnerait?
Très bonne question,
ouais,
quand même.
C'est...
Moi, je suis abonné aux trois. On ne sait jamais.
Vous êtes la seule... Dans quel sens le vent de l'histoire
va tourner? Le premier qui arrive à Reims. Ouais. J'étais un de vos premiers abonnés. Ouais.
Je ne sais pas, je dirais Napoléon, peut-être.
Napoléon. Ouais. Non.
C'est l'erreur.
C'est celui qui en a moins parce qu'il vient d'arriver sur Twitter.
Ah, d'accord.
Après son mariage, donc l'année dernière. Il a 1727 abonnés.
Et qui est le gagnant alors?
Le gagnant est Louis de Bourbon qui a 28 000 abonnés et le comte de Paris, le prince Jean d'Orléans, en a 11 400. Donc, c'est David.
Non, une là, fois de plus.
C'est une victoire très facile de David Kessel-Dopez.
Je n'y suis pour rien, mais c'est vrai que c'était pas si difficile.
Il faudrait lui mettre une couronne à David. Il faudrait qu'on ait une couronne pour ce jeu.
Je suppose qu'il en a déjà comme moi dans les dents. Alors.
Oui. Vous avez vu juste.
Et écoutez, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur cette note de qualité. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui ont été enregistrés à leur insu. Une belle bande de bras cassés quand même, faut dire les choses, Stéphane. C'est pas vous qui tomberez dans le panneau comme ça, hein, d'être enregistré à votre insu, de dire des bêtises
mais
en
si,
antenne.
Ça m'arrive tout le temps. Mais dans cette émission, c'est ça qui m'inquiète.
Demain, on réunit non pas une, non pas deux, mais trois dames, Stéphane.
Oui, trois dames qui ont résisté. Résiste. Et prouvez, oui, qu'elles existaient. On réunit Solitude, une figure historique de la résistance des esclaves noirs et mulâtres, Mary Reynolds, une artiste surréaliste qui s'est engagée dans la résistance,
et France Gall, forcément, qui...
Cherche ton bonheur partout.
Il est là, votre bonheur, Stéphane, là, juste à côté de vous. Il sera encore là demain, c'est moi. À demain, les amis.
À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs. À demain, chers amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.